Vous écoutez Radion, il est 21h passé de quelques secondes, voici Wagon Livre, votre émission littéraire, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Merci effectivement de nous accompagner pour ce dernier numéro de l'année 2016, numéro au cours duquel nous allons vous proposer un entretien avec le romancier Stéphane Hoffmann. Stéphane Hoffmann a fait paraître il y a quelques mois aux éditions Albin Michel un roman intitulé « Un enfant plein d'angoisse et très sage ». Et le 14 décembre dernier, alors qu'il était l'invité du club des écrivains de Bourgogne à Dijon, nous avons pu nous entretenir avec Stéphane Hoffmann. Quelques petits éléments concernant Stéphane Hoffmann, donc auteur du roman dont il va être très largement question ce soir. Stéphane Hoffmann vit actuellement à la Baule Escoublac. Il organise d'ailleurs et anime depuis 2003 les rendez-vous de la Baule, hein, où il invite chaque année une vingtaine d'auteurs à rencontrer leurs lecteurs. Il a commencé sa carrière de romancier aux éditions Albin Michel en 1989 avec un roman intitulé « Le gouverneur distrait ». Il a obtenu des prix littéraires, on mentionnera tout de même Château Bougon, qui a obtenu le prix Roger Nimier en 1991. Il est l'auteur d'un roman resté célèbre, « Les autotamponneuses », qui d'ailleurs en 2011 a fait partie de la première sélection du prix de Flore et a été finaliste du prix Interallié 2011 et finaliste également du prix des Deux Magots en 2012. Et puis le dernier roman dont il va être très largement question ce soir, Un enfant plein d'angoisse et très sage, paru lui en août 2016, a reçu le prix Jean Frustier 2016. Il a fait partie de la première sélection du prix Renaudot, de la première sélection du Grand Prix du roman de l'Académie française. Il a fait partie de la première sélection du prix Interallié, de la sélection du prix Renaudot des lycéens, finaliste du prix Jean Giono et sélection du prix des Deux Magots 2017. Inutile de vous dire donc que le roman de Stéphane Hoffmann n'est passé inaperçu ni auprès des médias, ni auprès des jurys littéraires et des professionnels de l'écriture. Je rappelle que Stéphane Hoffmann est aussi critique littéraire, notamment au Figaro, où il a débuté sa carrière en 89, plus précisément au Figaro Magazine, où il publiait un article sur l'histoire du sandwich. Voilà. Il est temps maintenant de retrouver l'entretien enregistré le 14 décembre dernier au Grand Hôtel de la Cloche à Dijon. J'ai d'abord demandé à Stéphane Hoffmann, puisque son roman « Un enfant plein d'angoisse et très sage » raconte l'histoire d'un petit garçon de 13 ans, j'ai demandé à Stéphane Hoffmann si les éléments de ce roman étaient puisés notamment dans son enfance, dans l'existence du petit garçon qu'il fut.
Le petit garçon que je fus et que je suis encore de temps en temps, puisque, comme disait Victor Hugo, vieillir, c'est avoir tous les âges. Donc on a tour à tour 3 ans, 50 ans, 25 ans. Voilà. Moi je suis né à l'ouest. Je suis né
à Saint-Nazaire. Ça,
je suis né à Saint-Nazaire. C'est ma ville natale et qui entend de rester, comme disait Alphonse Dallet de Honfleur. Et je suis né dans une famille très unie, très heureuse. Mes parents s'entendaient très bien. Ils ont eu 5 enfants. Je suis le 3e et le meilleur. Et bien sûr, et on s'amusait beaucoup à la maison. On était toute une bande. Donc c'est absolument pas autobiographique. Mais j'ai remarqué, et c'est un petit peu ce que je voulais faire, le portrait d'une famille où l'amour passe mal. C'est-à-dire, vous prenez, ça existe des familles comme ça, les gens séparément sont très gentils, mais quand ils sont ensemble, ils ne savent que s'engueuler. Ils ne savent pas, je ne sais pas pourquoi, ils ne savent pas s'aimer. Et donc là, j'ai fait le portrait d'une famille sur 3 générations, la grand-mère, la mère, le fils, et le Saint-Esprit, c'est moi. Et l'amour, enfin, ils ne savent pas s'aimer entre chacun. La grand-mère n'aime pas la mère, qui n'aime pas le fils, et le fils dit, stop, moi, je vais arrêter ça, je vais les aimer.
Alors, effectivement, c'est un roman totalement loufoque, mais qui parle de sujets graves, puisque c'est l'éducation d'un petit garçon dont on ne s'occupe pas.
C'est ça. C'est le principe de la comédie, au fond, c'est de raconter gaiement des histoires tristes ou des histoires tragiques. Alors, Antoine, il a 13 ans. au moment où commence le livre, à la fin aussi d'ailleurs, puisque ça se passe uniquement pendant les vacances de Pâques. Il est en pension en Suisse. Son père, il ne l'a jamais vu, puisque ses parents se sont séparés avant sa naissance. Sa mère, il ne l'a pas vue depuis 2 ans, au moment où commence le livre. Et comme c'est les vacances de Pâques, son pensionnat l'envoie chez sa grand-mère à Chamonix.
Dans un très beau chalet.
Dans un très beau chalet, dans une très belle voiture.
Enfin, voilà. Une Rolls qu'il vient le chercher à la sortie du collège privé. Oui. Et qu'il conduit donc à Chamonix, chez sa grand-mère, qui est une ex-rockstar.
C'est ça. Alors, sa grand-mère, qui s'appelle Maggie, elle aussi n'a pas été aimée quand elle était petite fille. Et elle s'est réfugiée dans la musique. C'est-à-dire qu'elle a appris à jouer du luth. Et puis ensuite, elle était une très bonne luthiste, mais elle a fait du rock'n'roll. Elle est devenue une star.
Enfin, il lui dit quand même, j'ai fait des choses atroces dans ma vie. J'ai été vedette de musical.
Oui, parce qu'elle considère qu'elle a été... fêtée par la société pour de mauvaises raisons, au fond. Elle était riche et célèbre, mais elle trouvait que ce qu'elle faisait, c'était pas intéressant par rapport à la musique qu'elle aimait. Bon. Et c'est pour ça qu'elle s'est retirée en pleine gloire. Elle a épousé son moniteur de ski et elle s'est installée à Chamonix. Voilà. Et donc, c'est chez elle que vient Antoine pendant les vacances.
Alors, chez la grand-mère, c'est peut-être encore le lieu où Antoine se sent le mieux grâce à la présence des 4 chiens.
Voilà, sa grand-mère, alors, est une affreuse misanthrope, elle trouve tous des cons et tout ça, alors elle est assez marrante, je trouve, mais et elle a des chiens. Et parmi, elle a 4 chiens, et parmi ces chiens, il y en a un petit ratier qui s'appelle Jojo. Alors, Jojo adore Antoine. Il est fou d'Antoine. Et vous savez comment les chiens vous aiment d'une manière absolue. Et donc Antoine, qui est peu aimé, est très fier et très touché de recevoir l'amour de ce chien. Et ça lui donne une responsabilité, ça lui donne la preuve qu'il est aimable, puisqu'il est aimé. Et donc ça va lui donner confiance en lui.
Alors, il est vrai aussi que Antoine, qui est narrateur, très souvent oui. dans le roman, dit « Je n'aime pas ma grand-mère parce que je n'aime personne. Je suis un sauvage, on me le dit tout le temps, un ours, un asocial, un solitaire, un cas. »
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on lui dit. Vous avez, finalement, les enfants se conforment à l'idée que se font d'eux les adultes. Si on vous dit, moi j'ai entendu ça toute ma jeunesse, « t'es nul en maths », ok, je suis nul en maths. Et voilà. Donc si on vous dit... T'es pas aimable, on prend ça. Les enfants croient ce qu'on leur dit jusqu'au jour où ils s'aperçoivent que il y a des mensonges. Les adultes mentent aussi. Et donc lui, il va s'apercevoir de ça pendant les vacances avec ce petit chien qu'il aime. Il dit puisque Jojo m'aime, donc je peux être fortiche moi aussi.
Ah justement, Stéphane Hoffmann, puisque vous parlez de Jojo le ratier, donc le chien préféré d'Antoine, je vais lire le chapitre 7 de votre roman, dont je rappelle le titre, hein, « Un enfant plein d'angoisse et très sage » sorti en août dernier aux éditions Albin Michel. « Dans le jardin, d'un coup, je deviens joyeux. Les chiens le sentent, qui bondissent vers moi. Enfin, pas tous, car grand-mère en a 4, tous différents. Les chiens, ça ne veut rien dire. » C'est comme dire les enfants ou l'homme africain. Mais je parlerai des chiens plus tard. Ou pas. Dans les 4, il y en a un, toujours, qui cherche ma compagnie. C'est Jojo le ratier. Grand-mère interdit de faire des préférences. Mais moi, j'en fais quand même en douce, parce que je le trouve marrant, ce chien. Un petit chien noir et blanc, grand et agile, comme un chat, avec des poils dans les yeux et des oreilles cassées. La maison de grand-mère est un grand chalet acheté il y a longtemps. Bien avant ma naissance. On se demande pourquoi. Elle adore cet endroit. Et moi j'aime assez. Je connais toutes les cachettes du jardin. Je me planque sous un sapin. Mon sapin préféré. Je vois tout. On ne me voit pas. Le chien Jojo m'a suivi. Il veut me lécher le bout du nez. On ne s'est pas dit bonjour tout à l'heure. Il fait du bruit. Je mets mon index sur ma bouche. Chut, Jojo. Il rentre la tête dans les épaules, plisse les yeux et halète toujours, mais plus bas. Juste sa langue rose qui remue, les autres chiens sont repartis vers la cuisine. Je reste seul avec Jojo. Entre les branches du sapin, je vois la terrasse où grand-mère parle avec un grand type. Ce grand type, c'est Henri, I presume, celui qui a pris ma chambre. Ils ont déjeuné ensemble.
Le dessert est toujours sur la table, une tarte aux framboises avec des mouches autour. C'est l'ennui ici. Soit il fait froid, soit il y a des mouches. Grand-mère est le grand type bavarde. Je n'entends pas tout, seulement des mots que je n'aime pas. Comeback, mode, culte, que du bonheur, vintage, nostalgie, mythique, énorme, jeune génération, silence assourdissant, fendre l'armure. Tous ces mots à la con. J'entends aussi les protestations de grand-mère, ses rires et ses moqueries. Et dans tout cela, une émotion qui la prend, et le grand type qui gagne du terrain. Je vois son regard, tout calcul. Je ne sais pas qui est ce type, je sais seulement qu'il n'est pas un ami pour grand-mère et qu'elle ne semble pas s'en douter. Sinon, elle ne serait pas à minauder comme elle le fait, à faire sa pute. Elle a beau jouer les rugueuses, je la vois se laisser prendre petit à petit. Elle parle, elle baisse le pont-levis. On se retrouve juste après la pause musicale avec notre invité Stéphane Hoffmann, auteur du roman Un enfant plein d'angoisse et très sage, c'est Wagon Livre. Vous êtes sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
New York, Barcelone ou Tokyo, les mêmes gratte-ciels qui me regardent haut. Ma jeunesse qui s'enfuit avec mes rêves, la même tristesse dès que le soleil se lève. Paris, London ou Los Angeles, où que j'aille mes peurs me tiennent en laisse. Seule dans ma chambre j'ai perdu le sommeil, et les lendemains ressemblent à la veille. Et je m'en vais pour retrouver qui je suis. Je laisse la nuit. Par mes souvenirs, et je m'en vais pour retrouver qui je suis. Je laisse la nuit m'emmener loin d'ici. Je n'oublie pas d'où je viens, où j'ai grandi. Je suis une enfant d'ailleurs, je suis une enfant d'ailleurs. Et je m'en vais pour retrouver qui je suis. Puisqu'ici mes peurs me tiennent en laisse, je pars, je pars.
Je m'en...
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Dernier numéro de l'année 2016 de votre émission littéraire. Nous sommes ce soir en compagnie de Stéphane Hoffmann pour son dernier roman paru aux éditions Albin Michel et qui a pour titre « Un enfant plein d'angoisse et très sage ». Alors bien sûr, on a beaucoup parlé de ce jeune garçon de 13 ans dans une famille où la tendresse passe mal. Ce garçon de 13 ans, comprend que l'enfance est pleine de pièges et qu'il faut en sortir. Alors justement, Stéphane Hoffmann, une question que je me suis beaucoup posée en vous lisant, question sérieuse, comment fait-on pour sortir de l'enfance ?
D'abord, je trouve que l'enfance est très long quand on est enfant, ça n'en finit pas. Parce que finalement, on est un esclave quand on est enfant, on n'a aucun droit. À part celui d'obéir et de faire ses devoirs, et c'est tout. Donc, moi, je me disais quand j'étais enfant que je pensais que les grandes personnes faisaient absolument ce qu'elles voulaient. Bon, et donc j'avais hâte d'être une grande personne. Si, je n'ai pas aimé mon enfance parce qu'on m'a mis en pension. Et j'étais en pension à l'âge de 10 ans et à Vannes chez les Jésuites. Bon, c'était pas le bagne, mais j'aimais pas ça. J'aimais pas la promiscuité, j'aimais pas dormir dans des dortoirs de 100 lits, j'aimais pas ça. Et alors je comptais, j'ai 10 ans, j'en ai pour 8 ans, ça me paraissait le bout du monde. Maintenant, je sais que 8 ans c'est rien.
Alors, vous avez réussi tout de même à affirmer votre liberté, notamment à travers un métier de journaliste,
oui.
Où on défend une certaine liberté d'information. Et puis, le romancier, il a la liberté de faire ce qu'il veut de ses personnages, de les créer, de les faire mourir. Ça, c'est une vraie liberté.
C'est ça, c'est une grande liberté. Alors, une liberté qui se nourrit aussi de contraintes. C'est ça qui est amusant. Parce que, au fond, la première contrainte, c'est d'intéresser le lecteur, ou de l'émouvoir, ou de le faire rire, ou pleurer. Tout ça. Pour un journaliste, il y a aussi des contraintes. Mais de ces contraintes naissent une liberté.
En tout cas, le garçonnet de 13 ans, Antoine, lui, il aimerait pouvoir dire non.
Oui,
Il est capable quand même de grossièreté. Il est capable d'un certain culot parfois.
Oui, ça, c'est ce que font. C'est l'insolence des enfants. L'insolence de ceux qui sont le dos au mur et qui. Alors, ils disent des gros mots parce qu'ils ne peuvent pas faire des choses qu'ils aimeraient faire. Et donc lui, il attend au fond l'âge adulte qui pour lui c'est le plus beau voyage qu'on fait vers la liberté.
Un enfant plein d'angoisse et très sage, c'est le titre de votre roman, et on comprend peut-être ces deux positions de ce, allez, on va dire grand adolescent quelque part à 13 ans, on est un grand adolescent.
Ouais.
Il dit, c'est page 84, la vie d'un enfant. Est pleine de pièges.
Ben oui, bien sûr. Lui, il est un grand adolescent parce qu'il est malheureux. Il mûrit plus vite. Les gens malheureux mûrissent plus vite, c'est normal. Il faut qu'ils cherchent des solutions pour régler leurs problèmes. Et donc, la vie d'un enfant est pleine de pièges. En effet, le premier étant le conformisme, c'est-à-dire de se conformer à l'idée que les autres se font de vous. Et ça, c'est faut pas. Vous savez, il y a plein d'histoires comme ça. Le papa qui voulait jouer au tennis et qui n'a pas pu jouer au tennis, alors il force son fils ou sa fille à jouer au tennis, etc. Vous savez, il y a ça. Les adultes doivent respecter l'identité de l'enfant et l'aider à s'épanouir. C'est ça, élever un enfant, c'est le sortir de lui-même au fond.
En tout cas, Antoine a en détestation. Un personnage littéraire qui pourtant est souvent mentionné à l'école primaire, c'est le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui est l'image un peu poétique de l'enfant idéalisé qui jette un regard poétique et naïf sur la société et le monde des adultes.
Ouais.
Or, Antoine, il ne supporte pas le Petit Prince.
Eh ben oui. Oui.
D'ailleurs, il porte le prénom de l'auteur du Petit Prince,
c'est vrai.
Antoine de Saint-Exupéry.
Vous avez raison, je n'y avais pas pensé. Mais oui, parce qu'il trouve que ça ne marche pas, le Petit Prince. Il trouve déjà que l'aviateur qui se plante dans le désert, il n'est pas très doué. Ce n'est pas un bon aviateur. Il paraît que Saint-Ex n'était pas un bon aviateur, ça j'en sais rien. Ensuite, il a remarqué que les élèves qui, dans sa classe, aimaient le Petit Prince, pour lui, c'était les plus cons de la classe. Et donc les plus conformistes. Et donc, il sent, ça c'est un piège, le Petit Prince. C'est-à-dire qu'on veut vous conformer. On vous dit, ça c'est un livre merveilleux, c'est l'idéal de tout enfant. Et lui, non, c'est pas l'idéal de tout enfant. Lui, il préfère Alexandre Dumas, il préfère Lucky Luke, il préfère Homère et l'Iliade. Quoi. Il n'a pas envie de ce livre pour enfants. Lui, il veut des livres pour adultes.
Je reviens sur le Petit Prince.
Oui.
Antoine dit, c'est page 83, donc c'est le premier... dans la première partie du second chapitre, je hais ce blondinet qu'on appelle le petit prince, le petit con du bouquin de Saint-Ex, l'avement que les profs flanquent dans le cul des élèves. Il fait bien chier, ce petit prince.
Ouais, j'avais même mis le petit prince et le bavard des cons, mais je l'ai enlevé, cette phrase. Eh ben, vous savez, je vais vous dire, ce chapitre-là, sur le petit prince, me vaut beaucoup de remerciements. Et de compliments, j'ai l'impression que je venge pas mal de gens qui finalement n'aiment pas Le Petit Prince et n'osent pas le dire.
Et alors un peu plus loin, tout de même, Le Petit Prince est un livre de vieux écrit pour les enfants, un livre de lèche-cul. Il nous dit de tout expliquer aux grandes personnes qui seraient plus bêtes que les enfants. C'est un plotteur qui écrit ça, il flatte les enfants. Avec moi, ça ne marche pas. Voilà. On a l'impression effectivement qu'Antoine s'inscrit dans une forme de rébellion face, justement, à un enseignement un peu conformiste qui est celui d'un collège privé en Suisse.
Oui, César, qu'il a des goûts bien affirmés et il les défend.
Et concernant, quand même, Le Petit Prince et Saint-Ex, le père, donc, d'Antoine, Rudyard Griggs, a tout de même une réflexion, alors qu'il dit à son avocat, et là, il aborde l'éducation de son fils, puisqu'en fait, le père d'Antoine, tout d'un coup, se voit rappelé par son avocat qu'il a un fils et qu'il serait peut-être temps qu'il s'y intéresse. Ouais. Parce que, autrement, la mère de l'enfant risque de déposer une plainte, d'utiliser ça contre lui, il va perdre de l'argent et ça va lui coûter une fortune. Alors, je reviens sur Le Petit Prince. Rudyard Griggs, donc le père d'Antoine, dit à son avocat « Je ne veux pas être de ces pères qui s'estiment quittes envers leur fils en leur lisant Le Petit Prince. » Alors là, je me suis dit, Stéphane Hoffmann, il cogne sur Saint-Ex.
C'est pas moi.
Non,
parce que moi, je ne l'avais pas lu, Le Petit Prince, pour tout vous dire. J'avais eu le disque, on m'avait offert le disque quand j'étais enfant, lu par Gérard Philippe. Je l'avais écouté, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Mais je ne suis pas contre. Enfin bon. Mais quant à Rudyard, oui, en fait, pour lui, un enfant est intéressant à partir du moment où il peut l'emmener dans un bar, où c'est un homme. Quoi, lui, il a pas envie d'un fils, il a envie d'un copain. Et donc, il se dit à 13 ans, qu'est-ce que je vais faire de mon fils? Attendons qu'il ait l'âge où je pourrais l'emmener chez un tailleur, lui faire essayer ma voiture ou lui donner des recettes de cocktails. Mais avant, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il est un peu enfant lui-même, Rudyard Griggs. Il ne vit que selon son bon plaisir.
Alors, c'est vrai, Stéphane Hoffmann, vous avez raison. Le père du jeune Antoine, Rudyard Griggs, ne vit effectivement que selon son bon plaisir. Je voudrais d'ailleurs partager avec nos auditrices et auditeurs le chapitre premier de la première partie de votre roman concernant Rudyard Griggs, donc le papa d'Antoine. Il reste quelques Anglais, Rudyard Griggs en est un, le début de la déchéance occidentale remontant pour lui à la première guerre des Boers. Quelle idée pour ces peuplades sud-africaines d'oser défier la couronne britannique, civilisation la plus raffinée qu'ait donnée l'homme. Né près d'un siècle après cette catastrophe qui en avait annoncé et déclenché bien d'autres, Rudyard Griggs décide que, tout étant foutu, il passera sa carrière la toge sur la tête. Pour se prémunir de tout désagrément supplémentaire, laissant les brillantes études aux boursiers et autres ambitieux, il en fait de passable à la London Business School, se glisse par un amant de sa mère à la Bank of England, qui est alors une sinécure, et s'apprête à user le reste de sa vie à faire comme son pays, rester en deçà de soi-même. Cirant ses souliers à l'os et déambulant d'Anderson and Shepard au grill du Savoy et du Canoff Bar à Billings and Edmonds, entre deux virées mélancoliques dans les restes de l'Empire. Il envisage une existence élégante et vaine où il ne verra pas plus loin que le prochain week-end, ce qui lui semble le comble de la sagesse. Un chagrin d'amour ou deux, pas plus, on sait se tenir, une épouse ennuyeuse mais confortable et de bon goût, des amis fidèles, ni trop proches, ni trop nombreux, ni trop présents, quelques jolies personnes légères, faciles et pas tenaces, une maison à Islington, autour de Barnsbury Square, so poche, à moins qu'il n'opte pour Cheyne Walk ou Oakley Street, si l'épouse a de l'argent. Tous les week-ends, dans le Norfolk, avec chiens, chevaux, jeans et havanes, et des enfants, si leur absence rend l'épouse nerveuse. On fait le malin et l'inattendu arrive. Rudyard rencontre Baladine. Il en a envie comme d'un cabriolet voyant et peu fiable. Une type E, série 13 litres 8, si vous voyez. Ou plutôt, Baladine étant française, une Facel Vega Facelia.
Il la demande en mariage. Elle accepte. Pire, elle tombe amoureuse de lui, par bonne éducation et par inexpérience. Un extrait d'un enfant plein d'angoisse et très sage qui raconte la rencontre entre Rudyard Griggs et Baladine. Nous sommes ce soir en compagnie de Stéphane Hoffmann pour son roman Un enfant plein d'angoisse et très sage. C'est la dernière soirée wagon-livre de l'année 2016. On marque, si vous le voulez bien, un nouveau petit détour en chanson et on se retrouve juste après pour la suite de votre rendez-vous littéraire.
Le bon vent viendra chasser les mauvais tours, les printemps viendront balayer les mauvais jours. Je sais bien qu'il y a pire et qu'il y a mieux que moi, mais au-delà de nos soupirs et bien au-delà, c'est bien peu de le dire. Oui, mais moi j'y crois. Je demande à ton sourire de se tenir près, car le bon vent viendra chasser les mauvais tours. Les printemps viendront balayer les mauvais jours. Le bon vent viendra chasser les mauvais tours. Les printemps viendront balayer les mauvais jours. Tous ces gens que l'on devine débordant de tout, tous ces gens qu'on imagine heureux que nous. Crois-tu qu'il se dessine un autre idéal sous le poids de ta routine? Ce serait pas si mal, mais le bon vent viendra chasser les mauvais tours. Les printemps viendront balayer les mauvais jours. Le bon vent viendra chasser les mauvais tours.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Je reviens à notre petit garçon, plein d'angoisse et très sage. Lui, en revanche, le latin, c'est une réalité intellectuelle qui est très présente à la fois dans son discours,
oui,
et dans sa mentalité. Et je pensais même d'ailleurs que l'adjectif très sage renvoyait à la sagesse antique dont, dont était pétri peut-être Antoine.
Mais oui, le titre, vous savez, je ne me suis pas foulé pour le titre.
Oui, j'étais très déçu, mais vous allez peut-être nous expliquer. Alors, d'abord sur le latin, puis on revient après.
Ah bah le latin, ça l'épate complètement. Il doit, je suppose qu'il apprend le latin dans son collège suisse à Champitay. Et il adore ça, parce que finalement, le latin, j'ai remarqué, moi, quand j'en faisais, les gens qui étaient doués en maths étaient doués en latin, parce que c'est toute une réflexion, toute une analyse et tout ça. Bon, et lui, alors il est un peu, comment dirais-je, il la ramène un peu, quoi. Il fait des citations à sa grand-mère, et trouve, il cite Cicéron, enfin, il trouve ça très bien.
Quid faciam o judices quo me vertam.
Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est dans le Promilonnais de Cicéron. Et alors lui, il trouve ça très bien. Mais moi aussi, je me rappelle, quand j'étais pas très doué en latin, mais j'adorais ça, quoi, parce qu'on apprenait une civilisation ancienne qui était très poétique.
Et puis une grammaire.
Et puis une grammaire qui était difficile, mais.
T'expliquait et éclairait notre propre grammaire française.
Bien sûr. Et alors il y a une psy qui lui dit, mais ah, ça sert à rien, Antoine, le latin, fait plutôt du chinois, ou fait plutôt. Bon. Et lui dit, mais. Et vous avez bien du vernis à ongles, ça vous sert à quoi? Vous avez bien des boucles d'oreilles, ça vous sert à quoi? Vous avez bien des bagues, ça vous sert à quoi? Et elle dit, ça sert à faire joli. Et lui répond, mais le latin aussi, ça sert à faire joli. Et il ajoute, et ça éloigne les cons. Ce qui est vrai.
Je reviens à notre petit garçon Antoine. Il n'est pas du tout, lui, le petit prince dans la famille. Au contraire, on oublie même son anniversaire. Sa mère, alors... Parlons un peu de la mère d'Antoine. Elle se prénomme Baladine. Où avez-vous pêché ce prénom ?
C'était le prénom de la mère de Balthus, le peintre. Et c'était aussi le prénom de sa fille, je crois. Alors je trouvais ça très bien. Vous savez, c'est compliqué de trouver des prénoms quand on écrit un livre et qu'on a une famille nombreuse. Deux, qu'on connaît beaucoup de monde. Parce que si je prends des... Alors soit on prend des prénoms très connus, enfin très courants, soit on prend des prénoms très rares, comme le fait par exemple Amélie Nothomb. Bon, alors Baladine, c'est la fille de Maggie, la joueuse de lutte, la roqueuse repentie. Bon. Et alors, n'ayant pas été aimée dans son enfance, Maggie s'est dit « je vais aimer ma fille ». Or, elle accouche et, stupeur, sa fille ne l'intéresse pas du tout. Elle n'a pas du tout l'instinct maternel. Elle trouve que sa fille est con. Enfin, ça se passe pas mais oui. Dans son berceau. Enfin,
oui, elle se pose la question. D'ailleurs, elle la regarde. Elle, c'est une espèce de gigot agité.
Voilà.
Elle dit elle ressemblait à une bouse.
Voilà, une bouse. Alors, ce qui est quand même...
Et j'enfantais une conne, dit la mère en parlant de Baladine.
Mais oui.
Bébé.
Alors, imaginez son embarras quand même. Bon. Alors, elle s'est dit, zut, je vais faire semblant de l'aimer, je vais tout faire, je vais... Alors, elle fait semblant de l'aimer, elle joue un rôle, mais évidemment, la fille, la petite fille, elle le sent très bien. Sa mère, quand elle vient lui dire bonsoir dans sa chambre, elle a qu'une hâte, c'est d'en partir, quoi. Bref, la fille sent qu'elle n'intéresse pas.
Oui, puis elle ne veut pas, alors qu'elle est pourtant chanteuse de rock, enfin de musicaux, voilà. Elle ne veut pas chanter pour sa fille. Elle lui dit, ah ben non, ça va pas, j'aurais l'impression de faire des heures supplémentaires.
Oui, exactement, elle ne chante même pas une berceuse, rien du tout. Enfin, bon, l'horreur. Alors, évidemment, Baladine veut se montrer, vous savez, quand on n'est pas aimé, alors elle veut éblouir sa mère. Et donc, elle fait des études, elle serre les dents comme ça, elle fait des études très difficiles, aux mines, enfin, elle est à HEC, Et elle monte alors elle fait un petit peu une carrière ministérielle. Enfin,
c'est-à-dire d'abord à la Dactar, elle accompagne un ministre en déplacement pour des signatures de contrat.
Ensuite, elle veut faire du fric. Et elle rachète un groupe de bâtiments en travaux publics qu'elle gère très bien. Et d'ailleurs, à Dijon, il y a plein de trucs qui ont été construits par Baladine. On ne le sait pas assez. Et partout dans Europe. Et ensuite, là, au moment où commence le livre, elle veut être ministre. Elle veut faire une carrière politique, non pas qu'elle est que ça l'intéresse tellement, mais elle se dit que ce sera bon pour les affaires. Et donc, son fils l'embarrasse. Donc c'est pour ça qu'elle s'en occupe pas, elle n'a pas le temps. Sauf que ses conseillers, ou son père notamment, lui dit il faudrait humaniser un peu ton image, il faudrait qu'on te voie avec ton fils, il faudrait qu'on te voie avec ton mari. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle va essayer de le récupérer.
Alors, il y a des passages terribles sur la politique. Parce que Maggie est désespérée de savoir que sa conne de fille, pardonnez-moi, veut s'engager sur la voie de la politique, de l'engagement politique.
Ah bah oui, parce que pour elle, les hommes politiques, c'est des timbrés, quoi, des malades mentaux.
Alors, vous pouvez peut-être nous lire le passage, là, ça commence au bas de la page 171, Stéphane Hoffmann, quand elle dit...
Ah oui.
Je peux vous demander de nous lire bien face au micro, s'il vous plaît.
Alors, oui, donc, voici ce que... Donc, il y a une... Voici ce que dit Maggie à sa fille Baladine. Pauvre petite. Alors je commence où, en fait là, je commence là.
Oui, par ici. Par là, oui, tu ne vas pas crier comme une prof de sport.
C'est ça. Voilà. Elle lui dit, tu veux faire de la politique parce que tu veux montrer ta puissance, ton influence, ta force, ton pouvoir. Tu sais quoi? Tu es nul. Tu me fatigues et tu ne m'impressionnes pas. Tu crois que tu vas sauver la France en t'agitant et en hurlant comme un prof de gym, pauvre petite. La politique n'attire plus que les ratés, tu devras le savoir, et ceux qui ont été mal aimés par papa et maman ou par Bibiche et qui veulent montrer au monde, mais d'abord à Bibiche, maman ou papa, qu'ils ont eu tort de les négliger. Ils veulent se faire aimer, les pauvres niais. Les grands fauves d'autrefois sont devenus de petits chiens, larmoyants, tremblotants, compatissants, précautionneux, effrayés par leur peuple, etc. Alors, des immatures et des accablants. Enfin bref, elle lui dit, tu veux faire trembler, tu crois que tu vas faire trembler tout le monde, mais moi, tu me fais rire.
J'ai l'impression que Maggie est plus amusante encore que sa fille.
Ah ben oui, parce que Maggie, elle a tout prouvé. Et puis, elle a un côté un peu anard, comme ça. Bon. Mais Baladine, elle veut tout prouver. Baladine, elle... Donc, évidemment, elle est très tendue et elle a une ambition à assouvir. Les gens ambitieux sont rarement amusants.
C'est un roman d'une grande théâtralité, puisque finalement, c'est le spectacle d'adultes irresponsables, déments, vivant dans le luxe, vivant très très loin des inquiétudes matérielles. Rudyard, il est... Bon, c'est un sort de fétichiste de la chaussette. Enfin, il a une collection extraordinaire.
Oui, mais ça, il a raison. Il faut la chaussette.
C'est important, la chaussette.
C'est très important.
Pourquoi donc?
Eh bien, vous savez, quand... Non, mais même la chaussette, quand on est bien dans ses chaussettes, on est bien partout. Voilà, croyez, voilà, c'est une devise qu'il faudrait faire graver dans le marbre.
Alors, il est dandy, collectionneur de chaussettes, nous l'avons dit. Il a aussi des positions très tranchées sur les Français, parce que finalement, quand on lui rappelle que son fils est britannique, mais qu'il est aussi français, il dit décidément, il a toutes les tares.
Mais oui, ça c'est le vieil antagonisme entre les Anglais et les Français, mais ça c'est un peu pour rigoler.
Mais sur l'éducation, en revanche, Rudyard, à un moment, dit à son avocat, là, c'est Percy Jenkins, aussi un filou, celui-ci, il lui dit... En Angleterre, on sort de l'enfance par des coups de pied au cul.
C'est ça. Ben ça c'est...
Est-ce que vous pensez que c'est si vrai que ça?
Peut-être plus maintenant, mais c'est la fameuse éducation anglaise où les enfants sont maltraités. Il dit aussi, toute enfance est atroce, il faut en sortir le plus vite possible. On materne pas du tout les enfants, du moins dans la haute société. C'est encore vrai maintenant, dans la haute société, oui. Regardez, le prince Charles a été placé dans des collèges très très durs dans son enfance et n'a pas voulu que ses fils en fassent autant parce qu'il est...
Résultat, ils lui ont donné quand même pas mal de...
Oui.
Pas mal de soucis, d'inquiétudes.
Mais c'est normal ça, les enfants sont faits pour inquiéter les parents.
Oh, peut-être pas pour les emmerder, parce que d'ailleurs finalement, Baladine, il est bien dit, Maggie dit Baladine, sa seule raison d'être et ce qu'elle sait très bien faire, c'est emmerder tout le monde.
Oui.
Et d'ailleurs, la grand-mère dit à son petit-fils, un conseil que je te donne à l'égard de tes parents, emmerde-les.
Oui, parce que les parents sont deux égoïstes. Que ce soit Baladine ne pense qu'à elle, qu'à son ambition, Rudyard ne pense qu'à son plaisir, et ils ne s'inquiètent pas du tout de leur fils. Or, le fils se dit, ne s'excuse pas d'être là, et il dit, je suis là, occupez-vous de moi. Voilà, c'est tout. Et sa grand-mère, il y a une complicité entre la grand-mère, comme souvent du reste, ça saute une génération, on s'entend mal avec ses parents et bien avec ses grands-parents souvent. Et donc la grand-mère lui dit, ce sont des égoïstes, oblige-les à penser à toi, emmerde-les et ils penseront à toi, ce qui est vrai. Et c'est ce qui se passe du reste.
En effet, Stéphane Hoffmann, Antoine est condamné à emmerder ses parents pour leur rappeler qu'il existe. Je voudrais revenir, parce qu'on en a parlé, de cette détestation du petit prince, alors non pas chez vous, mais dans la bouche du héros de votre roman. Je voudrais juste lire le passage concernant le petit prince, le célèbre personnage, l'enfant idéal, né sous la talentueuse plume d'Antoine de Saint-Exupéry. La vie d'un enfant est pleine de pièges, la mienne surtout. Voilà pourquoi je dois sortir au plus vite de l'enfance. Voilà pourquoi je n'aime pas le petit prince. Le Petit Prince est un livre de vieux, écrit pour les enfants. Un livre de lèche-cul. Il nous dit de tout expliquer aux grandes personnes qui seraient plus bêtes que les enfants. C'est un peu l'auteur qui écrit ça. Il flatte les enfants. Avec moi, ça ne marche pas. Parce que moi, j'ai remarqué que les adultes arrivent à se débrouiller pour faire ce qu'ils veulent. contrairement aux enfants qui doivent toujours obéir. Donc, expliquer que c'est mieux d'être enfant qu'adulte, c'est comme dire que c'est mieux d'être esclave que libre. Et ne nous prendrait pas un peu pour des demeurés, le syntex avec son nom d'eau minérale ou de soutien-gorge ? Dans notre classe, ceux qui adorent le petit prince sont les plus dociles, comme par hasard. Pas étonnant qu'ils aiment l'autre crétin avec son mouton. Ça leur va bien, qu'ils restent entre eux, sans moi. D'ailleurs, pour moi, ce pilote d'avion qui se plante dans le désert parce qu'il n'aime pas les chiffres et qui voit des petits princes capricieux n'est pas dans son état normal. Il a bu ou il a fumé la moquette. Pas fiable, le mec. Je me demande pourquoi on nous le donne en exemple. Le drame du petit prince, c'est qu'il s'ennuie. Il devrait faire du sport, il préfère se la couler douce sur sa planète grande comme un ballon de plage Michelin. Alors il va faire la morale à des gens qui ne lui demandent rien, le roi, le vaniteux, le géographe, l'allumeur de réverbère, le buveur, le businessman. Il ferait mieux de les laisser tranquilles. Ce petit prince phraseur et moralisateur n'est pas sérieux. Il est lugubre. De toute façon, on fait dire n'importe quoi à un livre. Par exemple, notre prof prétend que le petit prince est le premier écologiste parce qu'il nous dit que chaque matin, après avoir fait sa toilette, il faut faire la toilette de la terre, ramener les volcans et enlever les baobabs. Et la déforestation, il connaît. Le pire, c'est encore le renard avec ses pensées qui mettent les profs en extase. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes achètent des choses toutes faites chez les marchands, mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Ah ouais ? En douille de renard, comme si les amis ne s'achetaient pas. Ils s'achètent aussi bien que les fourrures. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe ici, chez grand-mère. Un extrait du roman de Stéphane Hoffmann, qui est notre invité ce soir dans Wagon Livre, un enfant plein d'angoisse et très sage. On se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons. Nous sommes ensemble sur Radion jusqu'à 22h.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
C'est le critique littéraire et romancier Stéphane Hoffmann qui est ce soir devant le micro de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. Stéphane Hoffmann qui signe aux éditions Albin Michel un nouveau roman intitulé « Un enfant plein d'angoisse et très sage », le portrait d'une famille où la tendresse passe mal, où on croise donc cette grand-mère qui ne veut plus chanter, le père Rudyard qui n'aime que les chaussettes et la reine, et puis le petit chien Jojo le ratier, un petit chien bien et prudent, et puis la mère du jeune héros Baladine, une égoïste qui veut être ministre. Alors à un moment dans votre roman, Stéphane Hoffmann, on a le sentiment que les parents, Baladine et Rudyard, vont se retrouver et que peut-être le couple va se reformer pour le meilleur. En tout cas, on fait avec eux et Antoine des virées à Monaco et même une traversée du lac Majeur.
Mais oui, ils sont, et à un moment, parce qu'ils ne se sont pas vus depuis 13 ans, au fond, avant la naissance d'Antoine, puisque Baladine a quitté son mari quand elle était enceinte d'Antoine, et sans savoir qu'elle était enceinte. Et donc il se retrouve, il se dit, tiens, mais finalement on s'entend bien, donc pourquoi est-ce qu'on ne se verrait pas plus souvent?
Et il dit même tous les 15 ans.
Voilà, une fois tous les 15, une fois tous les 15 ans, c'est bien. Et puis finalement ils sont repris l'un et l'autre, chacun par sa passion.
Mais ce qui est intéressant aussi, on a l'impression qu'ils ont été de très mauvais parents pour le petit Antoine, parce qu'ils étaient dévorés par l'argent, l'ambition, la conquête sociale.
Oui, Baladine, oui. Puis le père, lui, alors une grande indifférence. Enfin,
un peu attardé.
Oui, ça ne l'intéressait pas du tout, quoi.
En tout cas, il y a un humour énorme dans ce roman.
Ben forcément.
Tout est lié à l'hyperbole, à l'exagération, les provocations, l'ironie aussi.
Oui, parce que, encore une fois, moi, c'est ma manière aussi de faire. Je n'aime pas le pathos, je n'aime pas l'exagérer. J'aime bien, au contraire, je trouve que plus qu'on raconte est triste, plus il faut le raconter ça légèrement. Mais c'est naturel chez moi.
En tout cas, c'est une histoire de famille assez grave, finalement. Il s'agit du bonheur d'un enfant, qu'on oublie dans un collège privé. Une grand-mère qui fait ce qu'elle peut, des parents inexistants, je dirais même presque inaptes.
Oui, exactement.
Vous avez beaucoup parlé de Victor Hugo au début de l'entretien, il y a ce fameux art d'être grand-père. Oui. Ben, eux, ils n'ont pas du tout l'art d'être parents.
Non, mais alors il y a Antoine, et Antoine a 13 ans, et les enfants ont beaucoup d'énergie. Et l'énergie donne de la gaieté. Et donc c'est pour ça qu'il est très joyeux finalement, malgré son désespoir. Il sait qu'il faut cacher son désespoir.
Alors, on arrive quand même un petit peu à la fin de notre entretien. Il était question quand même, dans l'entretien, de parler du titre. Ah, un enfant plein d'angoisse et très sage. Alors, je suis très déçu, Stéphane Hoffmann,
parce que
dès le début, vous reproduisez le poème de Valérie Larbaud dans lequel vous avez retenu un alexandrin.
Écoutez, Jean d'Ormesson fait ça, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Non, mais alors j'avais une dizaine de titres que j'ai soumis à mon éditeur, et celui-ci était le premier. Un enfant plein d'angoisse et très sage, c'est en effet tiré des poèmes de Barnabous de Valérie Larbaud. Et finalement, Barnabous, qui était aussi un riche héritier, Larbaud qui était un riche héritier, on était dans le même monde finalement. Et puis je trouvais que un enfant plein d'angoisse et très sage, ça dépeignait Antoine très bien.
Si je m'appuie sur une des déclarations de Maggie, page 185,
oui.
Nous offrons là tous les deux face au micro, j'allais dire, une illustration de la décadence, selon Maggie.
Oui.
Est-ce que je peux vous demander de lire? Alors, ça commence ici.
Ah oui, oui.
J'ai beaucoup aimé, parce qu'en tant qu'homme de radio, ça m'intéressait énormément, la réflexion de Maggie, avec l'invention du micro.
Alors, Maggie dit ceci. « Je me demande si la décadence n'a pas commencé avec l'invention du micro. On ne devrait parler qu'à une seule personne à la fois. Au-delà, c'est louche et c'est vulgaire. Les heureux de la Terre sont ceux qui, de toute leur vie, n'ont jamais parlé dans un micro. »
Merci Stéphane Hoffmann. Et puis je rappelle aussi que La vie d'un homme, alors d'abord c'est les nurses, ensuite les barmen, les barman, et ensuite les médecins.
Voilà, il y a les
vues par c'est les parcs selon Rudyard, revisités par Rudyard.
Les trois âges de la vie.
La nurse,
le barman et les médecins.
Et ça, c'est quand même vraiment formidable. Et c'est un roman...
Alors, nous avons quitté l'âge des nurses. Nous sommes encore dans l'âge des barman.
On est dans l'âge des barman. Voilà. D'ailleurs, on pourrait peut-être aller boire un verre de vin. Catherine
d'eau
vous minérale. Attend pour la suite de l'entretien. Stéphane Hoffmann, je rappelle donc Un enfant plein d'angoisse et très sage, donc votre dernier roman aux éditions Albin Michel, et merci de l'avoir évoqué à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion.
Merci de m'avoir reçu.